Le nom de Jésus est victorieux. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il les a détruites. Ça prend un peu de temps encore avant qu'il y ait une pleine manifestation de cela. Mais il commence déjà cette œuvre dans notre cœur. Ce matin, nous allons lire un court texte, une parabole de Jésus-Christ, et quelque part, voilà, doit nous interpeller aussi, même si on n'est pas forcément les premiers destinataires de cette parabole, mais on sera, je pense, en lisant cela, face aussi à nos propres difficultés, quelquefois nos propres résistances à l'Esprit de Dieu dans notre vie, et c'est en nous souvenant de la victoire de Jésus-Christ que nous pouvons lire avec grâce aussi ces paroles et les commenter maintenant. Il s'agit de quelques versets au chapitre 21 de l'évangile de Matthieu, les versets 28 à 32. Ils ne s'afficheront pas, je vous invite à les écouter. Alors c'est une parabole de Jésus qui est un petit peu formulée quelque part comme une devinette moderne. Vous en connaissez peut-être certaines du style « il y a pince-mi et pince-moi dans un bateau, il y a pince-mi qui tombe à l'eau, qui est-ce qui reste, etc. » C'est presque ça en fait dans la forme, mais bien sûr le message est bien plus profond que cela et ce n'était pas pour blaguer. « Que pensez-vous de ceci ?» ajouta Jésus. « Un homme avait deux fils. » Il s'adressa au premier et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans la vigne. »« Non, je ne veux pas, » répondit-il. Mais plus tard, il eut des remords et se rendit à la vigne. Le père adressa la même demande à l'autre. Celui-ci répondit « Oui, père, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté de son père ?»« Le premier, » répondirent-ils. Jésus leur dit alors « Je vous le déclare, c'est la vérité. Les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précèdent dans le règne de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous en vous montrant le juste chemin et vous ne l'avez pas cru. Mais les collecteurs d'impôts et les prostituées l'ont cru. Et même après avoir vu cela, vous n'avez pas eu de remords pour finalement croire en lui. » À quelle occasion Jésus raconte-t-il cette histoire, cette parabole? À qui parle-t-il? Alors, si on lit les versets qui précèdent, on voit que Jésus, à ce moment-là, est dans le temple et qu'il est en train de discuter avec les chefs religieux et les responsables du peuple. Et ces derniers, d'ailleurs, contestaient son autorité. Ce sont eux que Jésus interpelle par cette question « Que pensez-vous de ceci ?» Ce sont eux qui sont les premiers visés par cette question et que Jésus interpelle par cette parabole. Ça ne veut pas dire pour autant que cela ne nous concerne pas du tout, nous qui lisons ce texte aujourd'hui. Il faut tenir compte, comprendre aussi quel est le sens de cette parabole de Jésus, comprendre les enjeux et en quoi cela nous concerne. Il y a un ton qui est polémique sans doute dans cette histoire, et le fils de l'histoire qui donne le mauvais exemple en disant « oui, j'y vais, mais n'y va pas » est bien une figure des chefs religieux du temps de Jésus. Jésus leur a reproché plusieurs fois d'être hypocrites, d'avoir de belles paroles, mais sans les actes qui leur correspondent. Alors, de quoi Jésus veut-il parler avec cette parabole? La question qu'il pose à la fin de son histoire souligne de quoi il est question. C'est « lequel des deux a fait la volonté de son père ?» On comprend que le père de la parabole, ici, est une figure de Dieu lui-même. La question est donc celle de l'accomplissement de la volonté de Dieu ou de la résistance à accomplir cette volonté de Dieu, ce qu'il nous demande. Il n'est pas question ici dans cette parabole de discerner la volonté de Dieu. On a d'autres passages dans la Bible qui en parlent, prier pour discerner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui sera aussi agréable à Dieu. Mais là, dans cette parabole, c'est un petit peu plus simple. Le Père dit clairement les choses et il s'agit d'accomplir sa volonté. La volonté du Père est claire, « Va travailler dans ma vigne ». Il ne leur dit pas comment le faire, que faire exactement, mais un peu de bon sens permet de le savoir, au moins dans les grandes lignes. Et on part du principe que les deux fils savent prendre soin de la vigne, qu'ils l'ont, à un moment donné, appris. Leur père ne les envoie pas faire quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Et c'est aussi dans cette perspective que nous devons entendre cette parabole pour nous aujourd'hui. L'enjeu n'est pas ici de discerner quelle est la volonté de Dieu, même si on en a toujours besoin, mais quand on la connaît, eh bien, est-ce que ça suffit de la connaître ? Ben non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il arrive parfois dans certaines situations complexes qu'on peine à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Mais il y a aussi des moments où on sait très bien quelle est la volonté de Dieu. Il y a des moments où, particuliers dans la vie où de grandes décisions doivent être prises et on ressent alors le besoin de prendre du temps pour discerner quelle est la volonté de Dieu, le choix qu'il attend que nous fassions. Mais peut-être que la plupart du temps même, je m'avance peut-être un peu en disant la plupart du temps, vous me direz si vous êtes d'accord après, on se trouve plutôt dans la même situation que les deux fils de la parabole. On connaît la volonté de Dieu. On sait à quoi il nous appelle. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours envie de le faire. Mes enfants, ils me disent souvent, mais j'ai pas envie. Alors des fois, je leur dis, mais fais-le sans avoir envie alors. Bon, l'idéal, on est d'accord, c'est d'avoir envie et de le faire. Mais là, il n'y a aucun fils qui n'est dans cette situation, dans la parabole. La plupart du temps, il n'est pas très difficile de savoir quelle est la volonté de Dieu, au moins dans les grandes lignes. On a quelques repères clairs. Il y a les deux commandements de Jésus, que ceux qu'il a désignés en tout cas comme les plus importants, parce qu'ils résument tous les autres, aimer Dieu et aimer notre prochain. Il y a le décalogue, les 10 commandements, qui donnent des repères essentiels. Il y a aussi les commandements explicites de Jésus à ses disciples, s'aimer les uns les autres, être ses témoins. Il y a plusieurs conseils aussi qu'on peut retirer des épîtres de Paul. Prendre exemple sur Jésus-Christ, se mettre au service des autres. On a à la fois ce qu'il faut rejeter dans notre vie, les œuvres de la chair, et ce qu'il faut cultiver, le fruit de l'esprit. Alors franchement, si on prend tout ça en compte, on en connaît déjà beaucoup sur la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est facile à le vivre. Mais connaître la volonté de Dieu, la plupart du temps, il ne faut pas chercher plus loin que ses grands principes, ses grandes lignes et ses enseignements. La demande du père de la parabole à ses fils, « va travailler dans ma vigne », c'est aujourd'hui pour nous l'appel de Jésus à aller dans le monde et à être ses témoins, à aimer notre prochain, tout simplement. C'est ça la volonté de Dieu pour moi. Les grandes lignes sont claires. Il s'agit ensuite de voir comment concrètement on va pouvoir le faire. Là, on a peut-être besoin de se poser, de se mettre ensemble, peut-être d'essayer, de se tromper, de dire « Ah, je pensais que j'allais aimer mon prochain comme ça, mais finalement, ben ça ne marche pas. » Ou « j'ai commis des erreurs. » S'adapter aux circonstances, faire preuve de bon sens, mais on en sait largement assez pour commencer à y aller et faire les premiers pas. La plupart du temps, la vraie question n'est pas de savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi, mais plutôt, est-ce que je suis prêt à la mettre en pratique ? Est-ce que je le veux ou pas ? On est en général assez fort quand on veut quelque chose pour y arriver. Est-ce qu'on veut faire la volonté de Dieu avec cette même détermination qu'on le fait pour d'autres envies qui nous passent par la tête et qui sont bien moins importantes. Ce qui nous bloque, alors ça peut être de la mauvaise volonté, mais ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, ça peut être aussi la peur, l'impression de ne pas être capable de faire cette volonté que Dieu nous commande. Peut-être on a l'impression de manquer d'expérience ou de courage. Je me souviens une fois d'être allé dans un temps d'enseignement d'une dame qui s'appelait Rebecca Pieper et qui voulait nous encourager. D'ailleurs, elle a écrit un livre qui s'appelle « Sortir de sa bulle » pour aller à la rencontre des autres, pour être témoin de l'Évangile. Et elle donnait un enseignement pour nous encourager à cela. Et elle avait proposé un petit moment interactif et puis elle avait un paperboard et elle avait dit « Maintenant, dites-moi toutes les raisons que vous avez qui peuvent des fois vous retenir d'aller à la rencontre de votre prochain pour lui témoigner de l'amour de Dieu par un geste, par une parole, une action, etc. » Eh bien alors, les choses que les personnes de la formation disaient au fur et à mesure, c'était cela, c'était ben, « j'ai peur, j'ai l'impression que je vais être peut-être piégé si je vais rencontrer quelqu'un, et il va me dire « mais ton Dieu, en fait, c'est pas vraiment un Dieu d'amour, parce que regarde toute la misère du monde, etc. » Et puis on est toujours démuni face à ce genre de remarques, ou en tout cas presque démuni. Peut-être on se dit « on n'a pas d'expérience », et puis il y a peut-être aussi le courage, la peur, etc. Mais personne... Après elle tournait la feuille du paperboard et puis elle disait « mais personne n'a dit ce que j'ai écrit là sur cette feuille », c'est-à-dire la peur que le Saint-Esprit ne nous accompagne pas, que Dieu n'est pas tout-puissant, etc., etc. Et en fait, quand on lisait toutes ces vérités, eh bien on avait toutes les raisons pour y aller, si on ne doute pas de ça. Et personne n'en doute. Où qu'on aille et dans quelle situation, n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve, le Saint-Esprit est à nos côtés, et il est fidèle, et il est tout-puissant. Est-ce que ce n'est pas ça qui suffit finalement? Est-ce que nous, on a besoin de se sentir fort? Le Seigneur ne nous envoie jamais faire quelque chose que nous ne pourrons pas faire. C'est peut-être nous qui mettons la barre trop haute, et puis il nous accompagne. Son Esprit habite en nous pour nous rendre capables d'aimer. Une autre leçon de cette parabole pourrait être résumée par cette formule que vous avez déjà entendue, sans doute, « les actes comptent plus que les paroles ». Pourquoi est-ce que les actes comptent plus que les paroles? Sans doute parce que les actes sont la preuve que les paroles n'étaient pas prononcées en l'air. En fait, c'est exactement le sens de la formule choc de Jacques dans son épître « la foi sans les œuvres » ou sans les actes, est morte. Dit autrement, la foi, sans des actes concrets qui en témoignent, c'est du vent, guère plus que de belles paroles vides de sens, et c'est le fils de la parabole qui dit « Huit pères, j'y vais » et ne va jamais dans la vigne. La vivacité de notre foi ne se mesure pas tellement le dimanche au culte, et je remercie Diego d'ailleurs qui l'a dit, de façon très claire, la vivacité de notre foi ne se mesure pas tellement à notre présence le dimanche matin au culte. C'est important, c'est très bien, c'est pour nous, ça nous encourage. Peut-être si on n'y va jamais, c'est vraiment un problème, mais on peut aussi y aller tout le temps et avoir un gros problème à l'intérieur, dans notre foi. Notre foi se mesure beaucoup plus chaque jour de la semaine, non seulement dans nos paroles, mais encore plus dans nos actes, notre façon de vivre au quotidien, notre façon d'être avec les autres, simplement à notre niveau, là où Dieu nous a placés, comment on manifeste, on montre que Jésus-Christ nous habite. Alors le disciple parfait, il n'y en a pas hein, dans cette parabole, le disciple parfait, ça aurait été... le troisième fils, peut-être si cet homme avait un troisième fils, il aurait dit « Oui, père, j'y vais » et il y va. Ça, c'est l'idéal. Mais même si le disciple parfait n'existe pas, il y a des moments où nous pouvons quand même approcher cet idéal. Heureusement, il y a des personnes à qui nous pouvons faire confiance. Ils font ce qu'ils disent et respectent leurs engagements. Et c'est cela que nous devons tous viser. Rien que faire cela, tenir sa parole, tenir ses engagements, c'est déjà en soi un témoignage. Mais s'il faut vraiment choisir entre l'un et l'autre, entre dire et faire, mieux vaut dire non et faire quand même que dire oui et de ne pas faire. Parce qu'il est toujours possible de changer d'avis. Et en fait, il y a une vraie parole de grâce aussi dans cette parabole, parce qu'à la fin, on oublie même qu'un des deux frères a dit non d'abord, parce qu'il a changé ensuite d'avis. Il a eu des remords, ça l'a poussé à changer d'avis, et finalement, il est allé dans la vigne. Et que dit-on de lui à la fin ? Il a fait la volonté de son père. Les actes comptent plus que les paroles, et les beaux parleurs s'en mordront les doigts. Dans son commentaire de la parabole, Jésus se montre sans pitié avec les beaux parleurs, ceux qui se contentent de paroles mais qui ne les traduisent jamais en actes. Jésus leur dit « Je vous le déclare, c'est la vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précèdent dans le règne de Dieu. » Ce n'est pas la seule fois que Jésus utilise cette formule. Il s'adresse aux chefs religieux de son temps lorsqu'il dit cela. Et il faut bien mesurer la provocation que ces paroles engendraient et représentaient pour ces chefs religieux, eux qui aimaient avoir les places d'honneur et à qui Jésus dit ici que les collecteurs d'impôts et les prostituées les devancent dans le royaume de Dieu. Et il dit pourquoi d'ailleurs ? Il dit parce que eux au moins, ils ont cru. Ça implique aussi, c'est sûr, une reconnaissance de son état devant Dieu pour recevoir la grâce. Aux yeux des chefs religieux du temps de Jésus, il n'y avait pas pire que les collecteurs d'impôts et les prostituées. Les uns, les collecteurs d'impôts, fricotaient avec l'envahisseur, et les autres avaient une morale des plus douteuses. Et en plus, les prostituées étaient des femmes dont la valeur n'était pas reconnue à cette époque. Jésus dit à ces hommes respectés dans la société et craints de tous qu'ils sont devancés dans le royaume de Dieu par les collecteurs d'impôts et les prostituées. Alors l'équivalent dynamique aujourd'hui, je m'y risque pas. Les actes comptent plus que les paroles. Et le premier acte que le Seigneur prend toujours en considération, c'est celui de la repentance, du retour à Dieu, le fait de reconnaître ses fautes, ce changement d'avis-là, Dieu l'accueille toujours dans sa grâce. Alors cette parabole nous invite aussi à l'action, il s'agit d'aller dans la vigne. Alors, ce n'est plus la vigne, bien sûr. Littéralement, Dieu ne nous envoie pas dans une vigne, mais il nous envoie dans le monde. Et c'est tout à fait approprié, alors que nous commençons déjà à réfléchir aussi, à préparer la prochaine année scolaire, de se dire, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Comme le Père de la parabole, le Seigneur nous envoie. Il nous envoie dans le monde comme témoins de son amour et de sa grâce, en actes, puis en paroles. N'attendons pas d'avoir un ordre de mission détaillé où chaque projet, chaque action à faire, chaque parole à dire serait déjà écrit. Dieu nous fait confiance, il nous dit d'aller et il nous accompagne par son esprit. Alors qu'allons-nous répondre ? Et surtout, qu'allons-nous faire ? Amen. J'enchaîne. Ouais. Ben je laisse 30 secondes du coup encore de silence, et puis après, je vais donner quelques mots d'annonce. Notre Dieu, merci parce que tu es rempli de grâce. Et ce que tu nous demandes d'abord, c'est d'être là pour toi, d'être à ton écoute, avec un cœur ouvert à l'obéissance. Seigneur, dans les grandes lignes, nous reconnaissons que nous savons vraiment, ta parole est claire, nous savons dans les grandes lignes ce que tu demandes de nous. Aide-nous à le mettre en pratique, de façon concrète, cet amour que nous avons dans notre cœur et qui nous fait vibrer lorsque nous te louons le dimanche matin. Du plus profond de notre cœur, nous souhaitons que d'autres encore s'ajoutent à ton peuple. Nous soyons encore plus nombreux le dimanche matin à se réunir. Mais pour cela, tu nous envoies en mission. Et nous voulons répondre, essayer d'atteindre cet idéal, oui Seigneur, et y aller. Dans la confiance que tu nous accompagnes et que tu n'attends pas de nous des merveilles. C'est toi qui es merveilleux et qui fera de belles choses. Amen.